Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue sur Riverwood Podcast. Je suis le frère Alain Mizel, fondateur des ministères Riverwood International, ici donc à Laval, au Québec, Canada. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons donc sur la même série, Connaître Dieu, que nous avions commencé il y a quelque temps. Eh bien, nos podcasts sont disponibles sur www.riverwood.podomatic.com. Ou alors en souscrivant à iTunes, Twitter ou Facebook et sont sponsorisés par le ministère Riverwood International ici à Laval, au Québec, Canada. Et bien le sujet pour cette semaine, c'est sur l'omniscience. Omniscience, un caractère majestueux de Dieu. Omniscience, un caractère majestueux de Dieu. Eh bien, nous avions commencé à apprendre à connaître Dieu, qui il est, ce qui fait son être et définit son caractère. Nous comprenons maintenant qu'il est le seul vrai Dieu qui a un règne souverain sur l'univers et sur sa création. Dans son être, il a toute puissance et omnipotent, ce qui veut dire que Dieu est puissance et toute puissance vient de Dieu. Mais il est évident que pour que Dieu règne souverainement sur sa création et pour qu'il exerce sa pleine puissance sur sa création, eh ben, Dieu doit connaître toute chose. Ce message porte donc essentiellement sur l'omniscience, qui veut dire que Dieu est toute connaissance. Dieu est toute connaissance parce qu'il sait tout, ce qui veut dire également que Dieu est savoir. Il n'essaie pas d'acquérir la connaissance est ce qu'il est. Voyez-vous, en tant qu'êtres humains, nous essayons d'acquérir la connaissance par les études, ou si nous vivons suffisamment longtemps par l'expérience, mais même notre connaissance est tout à fait limitée. Nous essayons de trouver comment les planètes, les galaxies, les trous noirs fonctionnent. Nous venons juste de découvrir le boson de Higgs, qu'on appelle la particule de Dieu, et savons maintenant que les systèmes de gravitation des planètes suivent des lois mathématiques bien précises. Cependant, la Bible dit dans Psaume 147 au verset 4 que Dieu compte les étoiles et les appelle chacune par leur nom. Ce qui signifie que Dieu avait déjà fait tous les calculs mathématiques à la création. Dans Job au chapitre 37 verset 16, Job appelle Dieu, il appelle comme ceci, celui qui connaît tout parfaitement. Job appelle Dieu celui qui connaît tout parfaitement. Eh bien, parce que sa connaissance est parfaite, Dieu prend toujours les bonnes décisions. Il n'a donc jamais de remords ni de doute. Il n'a pas de soupir ou d'amertume parce qu'il connaît toutes choses. Nous, hommes, avons une connaissance limitée que nous essayons d'appliquer durant notre courte durée de vie, que nous gagnons parfois par les médias. Mais en fait, au moment où les nouvelles nous parviennent par BBC ou CNN, CNBC ou France 2 ou Al Jazeera, eh ben, c'est trop tard, en fait. La nouvelle n'est plus qu'une histoire et ce que nous prenons pour information ne sont que les déchets, les restes des histoires passées au filtre pour les masses que nous sommes. Eh bien, Daniel 2 au verset 20 et 22, voici ce que ce passage de la Bible dit. « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Ah, ah bon, c'est Dieu qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. » C'est un passage très très profond, bien-aimés, frères et sœurs, qui nous montre combien de fois la connaissance divine, la connaissance de Dieu, son omniscience est si profonde. Ça dit que c'est Dieu qui dévoile ce qui est profondément enfoui, est caché. Alors, par sa connaissance, par son omniscience, Dieu peut dévoiler et connaître ce qui est profondément enfoui dans l'homme. Et donc, en lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de cachotis en lui, mais en lui réside toute la lumière. Tout est lumière devant lui. Amen. Eh bien, en tant que croyant, qui marchant donc en alliance avec Dieu, il est tout à fait réconfortant de savoir que Dieu connaît toutes choses. Parce qu'il connaît toutes choses, mais nous sommes rassurés qu'il contrôle le cours de l'histoire, de telle sorte que toutes choses concourent à notre bien et à sa gloire. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Il peut faire tout ce qu'il connaît dans son règne souverain sur sa création. Actes chapitre 15 au verset 18. Actes chapitre 15 au verset 18 dit ceci. L'œuvre de l'Éternel lui est connue de toute éternité. L'œuvre de l'Éternel lui est connue de toute éternité. Eh bien, cela veut simplement dire que parce que Dieu est éternel, sa connaissance est aussi éternelle. Donc, il connaît éternellement. Il connut, il connaît et connaîtra toujours. Rappelez-vous, nous avions dit que l'histoire est en fait simplement la manifestation de la volonté du conseil divin. Eh bien, il n'y a donc aucun moment au cours de l'histoire où Dieu ne savait pas tout. Parce que assis dans les cieux, Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Alors il regarde et voit toutes choses d'un seul coup, étant l'auteur de toutes choses. Alors Dieu sut toutes choses qui furent, il sait toutes choses qui sont maintenant, et sait toutes choses qui seront. Donc tout ce qui va arriver dans le futur, Dieu le sait absolument. Mais finalement, la connaissance divine est infinie. Elle n'a pas de fin. Alors que notre connaissance à nous humains, à nous êtres humains, notre connaissance, elle est limitée. Et nous apprenons de nouvelles choses chaque jour pratiquement. Dieu connaît tout ce qu'il y a à connaître et connaît tout parfaitement bien. En fait, ce que ça veut dire simplement, c'est que Dieu est expert en toutes choses instantanément. Dieu est expert en toutes choses instantanément. Dieu se connaît parfaitement et use de sa connaissance envers nous de façon mesurée, avec ses autres traits de caractère. Sa connaissance s'applique donc à nous, toute-puissante, souveraine, omniprésente, tout amour, immuable, parfaitement sainte, juste et bonne. Voici un bel exemple dans la Bible où la connaissance de Dieu est appliquée toute-puissante, souveraine, omniprésente, tout amour, immuable, parfaitement sainte, juste et bonne. Eh bien, sans être conscient de la situation, les enfants d'Israël avaient désobéi et transgressé le sabbat des 7 ans pendant 490 ans. Ils avaient désobéi et transgressé le sabbat de 7 ans pendant 490 ans. D'où est-ce que vient ce sabbat de 7 ans? Eh bien, allez avec moi dans Lévitique au chapitre 25. Lévitique chapitre 25 au verset 1 à 4. Lévitique 25, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Eh bien, parce que Dieu est toute connaissance, il savait que les Juifs n'avaient pas respecté ce sabbat. C'était un sabbat sacré pour Dieu. Eh bien, Dieu est saint. Alors, sa sainteté a requis qu'un prix soit payé pour cette transgression, que la punition soit ferme, mais qu'elle soit appliquée de façon juste, bonne et avec amour. Alors, Dieu permit aux Assyriens de Babylone et à Nebuchadnezzar de conquérir Israël en 606 avant Jésus-Christ et de les garder, donc de garder les Israélites en captivité pendant 70 ans, soit un an de captivité pour chaque sabbat de 7 ans qu'il n'avait pas respecté pendant 490 ans. Vous voyez bien que Dieu connaît très bien ses mathématiques. C'est un expert mathématicien. Un an de captivité pour chaque sabbat de 7 ans qu'ils n'avaient pas respecté pendant 490 ans, eh bien, ça fait 70 ans de captivité. Donc les enfants d'Israël sont restés pendant 70 ans en captivité à Babylone. Et bien dans son amour et sa bonté, Dieu va leur permettre de retourner vers leur terre. Une fois qu'ils ont fait le temps, donc ils ont passé tous les 70 ans en captivité. Et bien pour acquitter cette tâche délicate, qui est tout à fait délicate, Dieu va élever un roi qui s'appelle le roi Cyrus et l'empire Médo-Perse pour conquérir Babylone en 536 avant Jésus-Christ. Eh bien, Dieu utilise alors ce roi païen qui s'appelle Cyrus. Ben, Cyrus veut dire « loin de Dieu » pour libérer les Israélites et leur donner toutes les faveurs pour qu'ils rebâtissent le temple à Jérusalem. Eh bien, ceci est un bon point de sagesse d'ailleurs pour les chrétiens, pour les croyants, de savoir que Dieu, dans sa souveraineté, peut élever même un païen et loindre pour la tâche qu'il lui confie. Ceci est possible simplement parce que Dieu est toute connaissance. Alors il sait qui il peut élever, qui va l'obéir, quelle que soit sa religion, sa couleur, sa race ou sa culture. Dieu peut élever n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, et lui déverser une onction pour la tâche qu'il lui confie. Eh bien, Dieu qualifie, perfectionne et oint ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas ceux qui sont parfaits. Alors, 150 ans avant même la naissance de Cyrus, Dieu l'avait déjà annoncé par son prophète à Isaïe. Voici ce que Dieu dit à propos de Cyrus. Isaïe chapitre 45, verset 13. « C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. » Qui fera toutes ses voies bien droites? Eh bien, c'est Dieu. Dieu dit que c'est moi qui ai appelé Cyrus. Et bien aimé, on parle de 150 ans avant même que Cyrus ne soit né. Dieu dit, par la voix du prophète Isaïe, « C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice, et moi je ferai toutes ses voies bien droites. Je m'assurerai que les voies de Cyrus sont droites. Il reconstruira ma ville, quelle ville? Jérusalem, et laissera partir mes exilés, les 15 exilés, les enfants d'Israël qui sont à Babylone, sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Alléluia. Eh bien, Dieu l'annonce 150 ans auparavant. Dieu va même encore plus loin dans ses plans pour Cyrus. Il l'appelle son berger, qui fera sa volonté. Isaïe 44, Isaïe chapitre 44, verset 28. Isaïe chapitre 44, verset 28, dit ceci, dit à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il est mon berger, Cyrus est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple, que tes fondations soient posées. Alléluia. Et sûrement, Cyrus, qui arrivera donc 150 ans plus tard, ben, accomplira la prophétie d'Ésaïe, dans ses plus petits détails. Voici ce que Ezra dit dans Ezra au chapitre 1, verset 2 à 3. Ezra chapitre 1, verset 2 à 3. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. L'Éternel, le Dieu du ciel. Cyrus reconnaît Dieu. L'Éternel, Cyrus, on parle d'un roi païen ici. On parle d'un roi païen, Cyrus. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. 150 ans plus tard, Cyrus confirme par sa propre voix exactement la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Amen, amen, amen. Dieu avait prévu que Cyrus serait droit devant lui, qu'il ferait que ses voies soient droites devant lui. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait, et Cyrus a exécuté la volonté de Dieu à 100%. Eh bien, dans sa toute connaissance, Dieu peut utiliser qui il veut et loindre pour la mission qu'il lui confie. Avec les œuvres d'Ezra et Néhémie, le retour de dizaines de milliers de Juifs en terre sainte après l'exil à Babylone, eh bien, la restauration de Jérusalem et la reconstruction du temple seront achevées et la prophétie d'Isaïe, donc qui concernait Cyrus, et les 70 ans de captivité des Juifs à Babylone, c'est absolument parfaitement accompli. Parce que Dieu connaît toutes choses instantanément, eh bien, il connaît aussi toutes les possibilités instantanément. Je dis encore, parce que Dieu connaît toutes les choses instantanément, ben, il connaît aussi toutes les possibilités instantanément. Et en ce qui concerne Dieu, il n'y a rien qui n'est ni trop grand, ni trop petit pour faire partie de sa connaissance. C'est pour cette raison que Matthieu, chapitre 10, 29, dit ceci, que Dieu connaît même les moineaux. Dieu connaît même les moineaux. Matthieu 10, 29. Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Dieu. Alléluia. Dieu se préoccupe même des moineaux. Parce que Dieu connaît tous les détails, eh bien, il est capable de s'occuper des moineaux ou d'habiller l'herbe des champs. Il se soucie alors encore plus de toi et moi et de nos besoins. C'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 6, au verset 30 à 33. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33. Jésus disait ceci. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, pour toi et moi, mon frère et ma sœur, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Ce sont en fait les païens qu'ils cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout cela quoi? Eh bien, tout ce que vous allez boire, tout ce que vous allez manger, tout ce dont vous allez vous habiller, tout cela vous sera donné en plus, une fois que vous allez chercher le royaume de Dieu. Eh bien, la conclusion de ce passage de la Bible est que Dieu, qui est toute connaissance et qui sait s'occuper des moineaux et du lit des champs, sait également s'occuper de ses enfants, surtout ceux qui marchent dans l'obéissance de ses décrets. Jésus dit que ce sont les païens, ceux qui n'ont pas d'alliance avec leur Dieu, qui doivent se soucier de ce qu'ils doivent manger, boire ou porter. En ce qui nous concerne, notre Père Céleste, avec qui nous sommes en alliance par son propre sang, dans son omniscience, dans sa toute connaissance, eh bien, il connaît les choses dont nous avons besoin avant même que nous y pensions ou que nous le demandions. Voyez-vous, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur de notre vie et sommes entrés en alliance avec lui par la nouvelle naissance, eh bien, nous avions échangé nos noms. Il a pris tout notre passif et nous a donné tous ses actifs. Eh bien, c'est absolument un échange merveilleux, puisque nous n'avions rien à lui donner, à part notre être entier, tout entier. Alors, tous les actifs, les biens célestes sont à notre disposition. Nous sommes devenus un avec Christ. Le regarder, c'est nous regarder. Les croyants qui comprennent l'alliance savent que tous les biens de Dieu sont à leur disposition et n'ont donc pas à se faire des soucis. Ceci explique également l'essence de la prière. À quoi sert-elle si Dieu sait tout? Et pourquoi Dieu ne répond pas parfois à nos prières quand nous sommes dans le besoin? Eh bien, bien-aimés, chers frères et sœurs, je veux simplement vous dire que la prière, c'est marcher en obéissance avec Dieu. En fait, Dieu n'a pas un numéro de téléphone d'urgence dans les cieux que nous appelons quand nous sommes dans le besoin. Ceux qui connaissent leur alliance savent qu'ils ne peuvent pas prier à Dieu au nom de Jésus s'ils ne vivent pas au nom de Jésus. Vivre au nom de Jésus veut dire vivre en obéissance selon ses voies, selon ses préceptes et selon ses décrets. C'est la même chose que marcher par l'esprit. Eh bien, faire quelque chose au nom de quelqu'un signifie le faire en leur ressemblance, selon leur nature et selon leur caractère. Il est donc inutile de prier à Dieu au nom de Jésus si nous ne vivons pas dans la ressemblance de Jésus, ne partageons pas sa nature par le Saint-Esprit et ne nous efforçons pas à refléter son caractère. Eh bien, ceci ne veut pas dire que nous devons être tout à fait parfaits pour prier et parler à Dieu. Mais ça veut simplement dire que nous devons vivre une vie de repentance qui suit les commandements de Jésus et essaie de refléter son image. Maintenant, Dieu comme tout Père naturel, eh ben, il répond à nos prières incessantes et persistantes, surtout quand nous sommes encore des bébés chrétiens. Mais naturellement, après un peu de temps, eh ben, Dieu veut nous voir marcher droit devant lui, avec obéissance. Après que nous avions reçu la nourriture solide, comme le dit Paul, eh ben, nous ne sommes plus des bébés spirituels. Nous savons alors que la meilleure façon que les choses peuvent nous être ajoutés, la meilleure façon d'obtenir les choses de Dieu, eh ben, c'est de faire la volonté de Dieu sur terre. Marcher dans l'obéissance de sa parole, ce que Jésus appelle « chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu ». C'est cela, marcher dans l'obéissance de Dieu, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. La manière dont Dieu fait les choses sur terre, les faire parce qu'elles sont justes et les faire dans la justice. Eh bien, Dieu se connaît donc lui-même, parce qu'il est toute connaissance, il se connaît lui-même au plus profond de son être, et connaît ses plans précisément, et connaît très bien ses desseins, et ne prépare jamais un plan B. L'homme, par contre, ne se connaît pas, ni ne connaît la profondeur de ses pensées dans son cœur. Seul Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Oui, parfois, Dieu révèle à ses serviteurs par l'esprit de connaissance ou la prophétie, ce qui peut être dans le cœur d'un homme, mais c'est un don limité du Saint-Esprit que Dieu utilise pour démontrer sa puissance par l'homme de Dieu et qui doit être utilisé avec sagesse et amour. Eh bien, Dieu sait ce que nous avons fait par le passé, il connaît ce que nous faisons maintenant et il sait ce que nous ferons dans le futur. Il n'y a simplement aucun moyen de tromper Dieu. Voyez-vous, nous vivons dans un monde de façade où nous mettons le meilleur de nous-mêmes en avant et gardons notre côté obscur, je dirais la jambe de bois ou le crochet du capitaine Hook derrière. Eh bien, nous ne voulons pas que notre épouse ou nos époux, notre époux ou alors nos amis, eh ben, qu'ils nous connaissent bien. Nous vivons une vie trompe-l'œil. Ce que tu vois en réalité d'une personne n'est nécessairement pas ce qu'il y a de la personne. Mais dans toute cette tromperie sophistiquée du 21e siècle, nous n'arrivons toujours pas à contourner, à tromper Dieu. Voici ce que 1 Chronique chapitre 28 verset 9 dit. 1 Chronique chapitre 28 verset 29 dit. Quant à toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Quoi ? L'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Répète, l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, eh ben, il te rejettera pour toujours. Proverbe chapitre 5, verset 21. Proverbe chapitre 5, verset 21 dit ceci. En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Les voies de l'homme, il n'y a point de voie obscure qui pourrait être dans ta vie que Dieu ne voit pas. Il n'y a point de voie de lumière qui sont dans ta vie que Dieu ne voit pas. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Alléluia. Dieu sait et connaît alors tout ce qu'il y a dans nos pensées. Le millième de seconde où nous le pensons. Il connaît nos intentions et discerne les bons et les mauvais cœurs. Et c'est ainsi qu'il est d'ailleurs capable de faire asseoir celui-ci et de lever un autre pour ses desseins. Dans 1 Samuel au chapitre 16, eh bien, il y a une belle histoire qui se passe à propos d'Isaïe de l'onction que Dieu va déverser sur David, qui était un petit berger. Eh bien, ce qui est curieux, c'est que Dieu connaissant, étant dans son omniscience, connaissant les pensées, connaissant les cœurs des hommes, Eh ben, Isaïe voyait en David un jeune berger. Eh ben, là où Isaïe voyait un jeune berger, ben, Dieu voyait en David un roi qui était après le cœur de Dieu, qui voulait absolument toucher le cœur de Dieu. Amen. Voici ce que 1 Samuel au verset 16, au chapitre 16, verset 6 à 13. 1 Samuel 16, verset 6 à 13, dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, qui entrèrent, eh ben, c'était donc le prophète Samuel qui est arrivé chez Isaïe. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant moi. Ça, c'est Samuel qui parle, pas Dieu. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Voyez-vous, Samuel, qui ne pouvait pas sonder le cœur de ce jeune homme, Eliab, eh ben, Dieu lui dit, non, c'est pas lui que moi je veux pour roi, je veux quelqu'un d'autre. Alors, Samuel, le prophète, lui, voyait simplement l'apparence de la personne. Eh ben, Dieu, là où Samuel, le prophète, voyait l'apparence de la personne, eh ben, Dieu regardait au cœur de la personne qui était mise devant lui. Au verset 7, même l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît le cœur dans son omniscience, dans sa toute connaissance. Il connaît le cœur des hommes. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Voyez-vous, Isaïe est en train de faire défiler tous les enfants qui étaient restés à la maison. Les grands enfants, tous ses aînés, pour que Dieu choisisse un roi parmi eux. Eh bien, Dieu cherche toujours le cœur. Il sonde les cœurs, il connaît les bons cœurs. Eh bien, au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il lui pose la question de savoir, est-ce que tous tes enfants sont vraiment présents ici? Tous tes fils sont-ils là? Parce que par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction, Samuel pouvait se rendre compte que Dieu n'avait choisi aucun des enfants qui étaient présents là. Il devait nécessairement y avoir quelqu'un d'autre qui n'était pas là. Il y avait quelqu'un qui était là, qui était prévu pour cette promotion que Dieu cherchait. La personne n'était pas là, mais même si tu n'es pas là pour ta promotion, Dieu enverra quelqu'un pour qu'ils aillent te chercher pour ta promotion. Quand le temps est venu pour ta promotion, Dieu s'arrangera pour que quelqu'un aille te chercher. Amen. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher. Il pose la question de savoir, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis, c'est David. Eh ben, Samuel dit alors à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Amen. Isaïe donc envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec des beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Eh bien, là où le papa Isaïe, là où le prophète Samuel voyait d'autres personnes, eh bien, Dieu avait vu le cœur de David. Là où les autres voyaient un jeune berger, eh bien, Dieu voyait quelqu'un qui est capable de s'occuper de son peuple. Parce qu'il a su être fidèle dans les petites choses, il a su être fidèle pour paître les petits brebis de son père, eh bien, Dieu a vu dans le cœur de David quelqu'un qui est capable de conduire son peuple. Alléluia. Eh bien, c'est lui que Dieu va oindre pour guider Israël. Et naturellement, eh bien, après que Samuel soit parti, David est retourné pour être avec ses brebis, et plus tard, eh bien, il va tuer, par l'onction qui lui avait été versée, un lion, et plus tard, il tuera l'ours, eh bien, finalement, son onction, ce que Dieu préparait, va être révélé devant tout le peuple d'Israël, au moment où donc il va tuer Goliath. Jérémie chapitre 17 au verset 10. Jérémie chapitre 17 verset 10 dit ceci. Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui aura valu sa conduite et les effets de ses agissements. Moi l'Éternel, je scrute le tréfonds. Moi l'Éternel, je vais profondément dans l'être, je vais profondément dans la personne. Et je donne à chacun, eh ben, selon sa conduite. Votre conduite a une valeur. Votre conduite a une récompense. Et Dieu dit, eh ben, et qu'il va récompenser selon les effets de nos agissements. Selon ce que nos agissements, notre conduite mérite. Amen. Eh ben, il y a un homme dans la Bible qui a appris à ses dépens l'omniscience de Dieu et sa puissance à donner aux méchants leur salaire. Selon Jérémie, chapitre 17, 10. Eh bien, son nom était Aman. Aman, c'était un homme qui était assistant du roi Xerxès. Eh bien, cette histoire, elle est racontée dans le livre d'Esther. Eh bien, le livre d'Esther raconte une histoire fascinante qui se passe à Shushan. Shushan, c'était la capitale de l'Empire perse. Et cet empire était absolument vaste à l'époque donc du roi Xerxès. Eh ben, l'empire allait de l'Inde actuelle jusqu'à l'Éthiopie. Alors, vous pouvez vous rendre compte, c'était un grand empire, et cet empire a existé entre 485 et 465 avant Jésus-Christ. L'empire était donc dirigé par un roi puissant qui s'appelait le roi Xerxès. Eh ben, dans cet empire vivait une forte population juive qui n'était pas retournée en Terre Sainte avec Ezra, Néhémie et Zorobabel. Vous vous rappelez que les enfants d'Israël, après la décision de Cyrus, on leur avait demandé de retourner sur la terre promise. Mais malheureusement, il y a eu une frange qui était habituée à la vie dans l'empire babylonien. Ces juifs sont restés à Babylone. La Bible nous livre donc le récit de la jeune reine juive Esther, qui a donc intercédé pour son peuple, pour le sauver d'un complot machiavélique que Aman, qui avait donc une haine des Juifs et qui voulait les détruire, eh ben c'est un complot machiavélique que ce monsieur Aman avait ourdi contre le peuple juif. Eh ben Aman s'arrangea à fomenter et à obtenir du roi Xerxès un décret condamnant les Juifs à une mort certaine. Dans ces conditions, naturellement d'urgence, Dieu éleva une jeune fille juive. Cette jeune fille juive, eh ben elle s'appelait Esther. Esther veut dire en hébreu Hadassah. Hadassah ou simplement myrte. Le myrte, c'est une plante qu'on trouve donc en Méditerranée qui fait des très très bons parfums. Et en même temps, ce nom Esther en perse veut simplement dire étoile. Alors Dieu va donc élever cette jeune fille juive, étoile, Esther. Elle va donc devenir reine dans cet empire sans que le roi Xerxès ne sache qu'elle était juive. Esther avait été tenue au courant du complot que Aman était en train de fomenter contre son peuple par son oncle Mardoché, qui fut serviteur loyal du roi par le passé. Au risque de sa vie, Esther se présenta devant le roi et intercéda au nom de son peuple. Le roi régnait avec puissance absolue. Le roi Xerxès régnait avec puissance absolue. Il avait un tempérament violent, imprévisible, instable et un amour incontrôlé des plaisirs. Quand on se présentait dans sa cour sans avoir été invité, on courait automatiquement la peine de mort. Donc c'était absolument dangereux de se présenter dans la cour du roi. Et quand tu te présentais devant ce roi Xerxès et qu'il baissait son sceptre devant toi, cela signifiait simplement que tu étais mis à mort. Le roi n'avait pas invité Esther depuis 30 jours. Il n'avait pas invité sa reine Esther depuis 30 jours. Avant d'aller devant le roi, Esther donc demanda au peuple juif de jeûner et de prier pendant 3 jours. Voici ce que Esther au chapitre 4, verset 15 à 16 dit. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Esther fit répondre à Mardoché. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Sus et jeûner pour moi. ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi qui ne nous permettait pas donc à Esther de rentrer dans la cour du roi sans avoir été invitée. Elle dit qu'elle va enfreindre la loi, et si je dois mourir, eh bien je mourrai. Sur qui et sur quoi comptes-tu, mon cher frère et ma sœur, quand tu dois te présenter devant les grands de ce monde, devant des ministres, devant des premiers ministres, devant les présidents, devant les reines et les rois? Sur qui et sur quoi comptes-tu? Comptes-tu sur les mortels, magiciens et marabouts et autres, ou places-tu ta confiance en Dieu? Sur quoi comptes-tu quand tu fais face à des situations difficiles? Esther avait compris que situation spéciale demande un sacrifice spécial, et qu'il y a des choses que seule la consécration par le jeûne et la prière devant Dieu peuvent briser. Voici ce que Esther au chapitre 5 et au verset 1 à 3 dit. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Elle qui, Esther, gagna sa faveur. Et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Dès que le roi a vu Esther dans la cour, eh bien, Esther gagna la faveur du roi. Et qu'est-ce que fait le roi? Eh bien, le roi, il lui tend son sceptre en or qu'il tenait. Alléluia. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. Qu'as-tu, reine Esther? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera réclamée. J'ai l'impression que quelqu'un a mis une faveur spéciale sur la reine Esther. Quelqu'un a oint la reine Esther pour qu'elle obtienne une telle faveur devant le roi, qui soudainement lui demande ce qu'elle veut. Le roi ne pouvait pas voir Esther depuis 30 jours. Et soudainement, il la voit. Il lui fait une faveur en lui tendant le sceptre en or. Mais la première chose qu'il demande à Esther, il lui demande ce qu'elle désire. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Christ. Il y a des rendez-vous de faveur, des promotions, des choses favorables, des sceptres d'or qui sont sur le point d'être tendus vers toi, chers frères et sœurs, que Dieu a prévus pour ta vie, mais que le diable retarde, détourne, et il semble que le temps passe et il est perdu. Eh bien, la reine Esther, dans toute sa beauté, n'avait pas vu le roi depuis 30 jours. C'est beaucoup de temps pour une jeune belle reine. Mais Dieu qui a le temps en son sein, ben il est capable de racheter le temps. Il est capable de racheter le temps perdu. Et ce qui devait prendre 10 ans avant d'être réalisé, Dieu va le faire en une journée ou en une heure par un rendez-vous divin. Cela va également nécessiter, naturellement, une préparation. Ça va nécessiter préparation, courage et audace de ta part. Une onction de faveur et une bénédiction spéciale de Dieu qui amènera un roi de t'offrir soudainement la moitié de son royaume sans le lui demander. C'est ce même Dieu qui fera que tes interlocuteurs, ton directeur, ton président te regardent favorablement et ne sauront s'expliquer pourquoi ils te font de telles faveurs. Ce type d'onction, mon cher frère et sœur, ce type d'onction de faveur ne viendra pas sur toi, ne viendra pas sur ta vie si tu passes ton temps à manger et boire. Eh bien, c'est le genre de choses qui ne sont disponibles que par la consécration, le jeûne et la prière, et une relation de communion intime avec ton roi des rois. Alléluia. Dans Esther chapitre 6, au verset 1 à 3, Esther 6, verset 1 à 3, voici ce que ce passage dit. Cette nuit-là, la nuit après le jeûne et la prière, cette nuit du troisième jour, cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. J'ai l'impression qu'il y a eu une intervention divine, super et fantastique ici. Le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales du royaume, et l'homme en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionné les révélations faites par Mardochée, qui était donc l'oncle de la reine Esther, l'oncle ou le cousin de la reine Esther, à propos de Bigam et Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assyrus. Eh bien, le roi demanda, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, lui répondirent ses eunuques. Alors que Aman entrait donc au palais pour demander la pendaison de Mardochée, eh bien, au même moment, le roi est en train de le faire chercher pour lui demander ce qu'il fallait faire pour honorer l'homme en qui il se plaît. Eh bien, Dieu, dans son omniscience, dans sa toute connaissance et dans son omnipotence, a retourné les cartes contre Aman. Aman, c'est ce méchant qui voulait comploter pour que tous les juifs de Perse soient tués. Eh bien, Dieu va retourner les cartes contre lui. Aman va devoir honorer l'homme qu'il est en. Il va devoir honorer Mardochée, qu'il haïssait à mort. En fait, quand le roi lui a parlé du fait qu'il pensait honorer quelqu'un, honorer un homme, je pense que Aman pensait que c'est de lui dont le roi parlait. Alors, quand le roi suggéra, qu'est-ce qu'il fallait donner, le roi demanda à Aman, qu'est-ce qu'il fallait faire pour cet homme en qui lui se plaisait, Aman va donc suggérer, qu'on lui mette la robe du roi, qu'on lui donne un cheval royal avec la couronne royale et qu'on lui organise une parade à travers toute la ville. Aman a dû tourner au violet quand le roi lui a demandé de faire exactement cela pour Mardochée. Il est devenu malade, son orgueil a dû exploser, son cœur malade et il a dû suer de grosses gouttes. Eh bien, dans son omniscience, sa toute connaissance, Dieu connaît ton cœur et que tu restes droit devant lui, eh bien, ta reconnaissance finira par arriver. Quand Dieu connaît ton cœur, quand ton cœur est droit devant Dieu, ta reconnaissance finira par arriver. Elle peut être retardée, elle peut tarder, ça et là. Tu pourras en pleurer un peu, tu devras prier et jeûner, mais elle finira par s'accomplir. Et Dieu utilisera même tes ennemis les plus vils pour le faire. Finalement, la reine Esther va exposer au roi le complot ourdi par Aman qui voulait tuer tous les juifs. Le roi demanda que Aman soit pendu sur la potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardochée. Eh bien, la belle fin de cette histoire est que Mardochée fut exalté, il obtint tous les biens de Aman et les juifs, en donnant aux juifs donc la chance de se défendre contre leurs ennemis. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils firent avec brio. Ils tuèrent tous leurs ennemis et ils célébrèrent le jour suivant. Grâce à cette victoire, Mardochée déclara la fête de Purim comme journée de célébration pour Israël. Chers frères et sœurs, tout comme Mardochée fut exalté, Jésus, notre Mardochée, a été exalté après sa résurrection et son ascension. Tout comme les Juifs étaient sauvés d'un grand et imminent danger, eh ben, un Dieu omniscient qui connaît tout saura comment pourvoir pour ses enfants et comment protéger son peuple d'alliance en Jésus-Christ. C'est ce que Paul confirme dans Hébreux au chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder. Qui va intercéder? Jésus-Christ. Il est toujours vivant et il va intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu, en faveur de ceux qui sont en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie donc. On devrait se revoir la semaine prochaine. Vous pouvez toujours accéder à nos podcasts sur www.riverwood.podomatic.com ou alors sur www.riverwoodinternational.org, sur iTunes ou encore sur nos sites Twitter et Facebook. Merci. Le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.